France Inter.
C'est la bande originale sur France Inter. Soyez les bienvenus avec Lisa Delmoitier, avec Daniel Morin.
Bonjour madame.
Amandine Lourdel.
Bonjour.
Oldelaf.
Bonjour.
Tanguy Pastureau et Bruno Pecky. Notre invité du jour, c'est Clara Dupont-Monod.
France Inter, la bande originale, Leïla Kaddou.
Bonjour Clara.
Bonjour.
Bienvenue dans la bande originale.
Ah, bah, je suis contente d'être là.
Ah, ça nous fait plaisir. On va parler ensemble de La Confrontation, votre nouveau-né, de votre nouveau roman, aux éditions Albin Michel.
Albin Michel.
Albin Michel, absolument. Il est question d'un face-à-face, d'un négociateur du GIGN qui fait face à un forcené. Justement, dans vos existences respectives, est-ce que vous avez déjà été contraint de...
Au GIGN.
Non, pas au GIGN, dans votre passé. D'être confronté à quelqu'un à qui il fallait tenir tête. Lisa.
La seule négociation, c'est avec les ressources humaines.
Et alors, couronné de succès
10 euros brut.
De plus.
Quel pouvoir de persuasion.
Donc je paierai mon café. En fait.
Ouais, la c'est négociatrice.
Pas mal. Ouais, la négociatrice, ça va être la nouvelle série. Ouais. Amandine.
C'est marrant. En ce moment, j'essaie de négocier une somme pour faire un plateau pour une marque.
Oui.
Alors que je fais pas trop ça d'habitude. Et j'ai envoyé une somme. Et je sais très bien que s'ils me disent non, je vais leur dire pas de problème.
Donc pas très doué dans la négociation financière, parce que c'est encore autre chose.
Ouais. Personnel non plus.
Non, oh.
Non, il y a des gens, ils savent, je sais pas.
Je vous en supplie, câlin collectif pour Amandine Lourdel. Voilà. Bruno Pecky.
Moi, des négociations, oui, avec mes parents, les dernières que j'ai faites, je pense, quand je devais sortir.
C'était ce matin.
Venir ici, j'ai dû négocier et tout. C'était là avec Clem, tu viens chaque semaine et tout au moment.
Mais je connais le chemin, oui, voilà. Je sais quel bus prendre.
Venir tout seul.
Oui, ouais. Voilà.
J'ai dû leur dire exactement quel chemin je prenais, que j'allais pas parler aux gens que je connaissais
pas.
Tu sens
ton AirTag.
Bien sûr.
Qui te repère.
Oui, dans ma chaussure.
Et toi, Tanguy ?
Ben non, rien de spécial, parce que moi, je négocie très très peu, j'impose, moi, vous savez, je suis une sorte de tyran, de dictateur, donc je discute. Je ne discute pas beaucoup, non.
Est-ce que tu es capable de négocier ? Tu te sens ?
Tout dépend, mais je n'ai pas de souvenirs précis de négociations et de discussions longues. Non, en règle générale, au bout de 3 mots, je m'ennuie un peu. Donc...
Ok, voilà. Ça c'est ton guide, c'est efficace. C'est efficace. Oldelaf.
Généralement, je ne suis pas très fort en négociation,
ouais,
mais je vais
pas.
Essayer tout de suite. Je tourne un clip cet après-midi. Est-ce que tu veux venir tourner dedans ?
C'est un trac d'art, ton truc.
Ah non, tu vas être enfin connu.
Et c'est justement pour ça que j'ai refusé. Daniel.
Bon, des petites négociations avec la police, les contrôleurs. Non, les contrôleurs RATP, ces choses-là, quoi. Voilà. Et toi ?
Moi, les plus grosses négociations, c'est avec mon enfant. Mmh. Et je trouve que c'est très dur. C'est très dur, en fait, parce que tu ne fais pas appel aux mêmes arguments avec un enfant parce qu'il s'en contrefiche de tes arguments.
Bah quand même, elle a 30 ans.
Oui, mais bon, tu vois. Et c'est difficile de négocier avec un enfant.
Au final, un enfant, on l'achète facilement. Donc, en fait, on vire la négociation et on fuit le troc. Si tu fais ça, tu auras ça en retour. C'est horrible.
Voilà. Ou du chantage. Et je pense qu'elle l'a bien identifié. Elle le spécifie. Elle dit, mais c'est du chantage, donc je dis voilà. Et vous, Clara ? Voilà. Et vous ?
Eh ben, moi, ma dernière négociation, ça a été avec mon banquier, où on n'était pas très loin de la supplication, et donc c'était pas tellement une négociation en fait. C'était surtout s'adapter à ce qu'il me proposait.
Oui, mais cette maison à Saint-Barth, est-ce que c'était vraiment nécessaire ?
C'est vrai, ça, Clara. Est-ce que vous êtes bonne en négociation financière ? Amandine le disait dans le métier. Là, par exemple, je sais pas, un contrat d'édition, des textes qu'on pourrait soit vous commander, soit vous pourriez écrire spontanément. Négocier ce qu'on vaut.
C'est très difficile. Moi, je suis assez mauvaise. Et c'est ça qui me fascinait dans le métier de négociateur du GIGN. Oui. Que depuis toujours, je trouve ça fascinant. Parce qu'il s'agit de rentrer dans une logique pour l'infléchir. Et c'est autre chose, là, pour le coup, que nos petites négos à nous. Puisqu'en général, c'est quand même un forcené qui a des vies en jeu, entre les mains. Et il s'agit donc de comprendre une logique sans la valider.
Oui.
De susciter la confiance, mais pas la sympathie. Parce que vous n'êtes pas un copain.
C'est ça.
Et ce que je trouve incroyable, c'est que cet hommage aux mots, parce qu'une négociation, c'est une remise en mots. Mmh. Si vous prenez des gens en otage, c'est l'acte de violence, c'est que vous n'avez plus de mots. Mmh. Et ben, c'est quand même l'officier du GIGN qui va remettre en mots un lien. Et ce qui est dingue, c'est que cet hommage aux mots vient quand même d'un corps d'État, l'armée qu'on appelle la Grande Muette.
Oui. Mmh.
C'est
oui,
quand même assez étonnant.
C'est vrai.
Et je connais pas d'exercice plus délicat que cette négociation.
Et là, votre personnage, donc, Émile, ce négociateur du GIGN, est confronté à une prise d'otage dans une école maternelle, une dizaine de kilomètres de Paris. Une classe, une maîtresse, Mathilde, qu'il essaye d'humaniser sans cesse en rappelant son prénom et en rappelant aussi le prénom des enfants. Il essaye d'entrer, il entre donc dans un face-à-face, un dialogue que le forcené a l'air d'apprécier aussi, parce que c'est ça le paradoxe.
Oui, et alors le problème, c'est que Émile, quand on lui dit il y a une prise d'otage dans une école maternelle, il a pas mal quand même de négociations à son compteur. Mmh. C'est un métier très particulier qui demande beaucoup, beaucoup de finesse et d'entraînement. Et il dit, bon, ça, je gère. Et on lui dit, alors, à ceci près, Émile, que là, il y a une petite nuance, qui est que le forcené, il dit qu'il s'appelle Elon Musk. Donc, Émile se dit, ah ben ça, j'avais pas eu, tiens. Alors là, le forcené qui prend l'identité d'une star, j'avais pas. Mais il a pas d'autre choix que de démarrer sa négo en disant, bah, bonjour, Elon Musk.
D'autant qu'il ne le voit pas.
Il ne le voit pas. Il sait que de la voix. Alors ça, les officiers du GIGN, quand vous discutez avec eux, ils vous disent, c'est très souvent le cas, on ne voit pas le preneur d'otage. Donc, on est coupé de 50% de l'information, puisque nous n'avons pas toute la science du visage et ce langage paraverbal, qui s'appelle la synergologie, je ne sais même pas. Voilà. Et entre deux, il y a une espèce de duel, mais qui parfois se confond avec un pas de deux, parce qu'en vérité, il s'estime, en tout cas le forcené estime beaucoup Émile, il adore discuter avec lui. Donc c'est un peu, à un moment, Émile s'en défie. Parce
et c'est justement à ce face-à-face-là qu'on va assister tout au long du livre, avec une intrigue maintenue à flot, bien sûr, par Clara Dupont-Monod. Vous savez qu'ici, vous avez votre plus grand fan. Oh. Il est juste derrière moi, là.
Ah,
oui.
Ça,
c'est lui, c'est Oldelaf. À toi, Oldelaf.
Oh, oui. Je suis fan de Clara Dupont-Mono. CDM, mes initiales, que Coupe du Monde, c'est beau. Aujourd'hui, c'est votre grand retour ici sur France Inter. On va parler SpaceX normal pour une ex-Jupiter. Et vous êtes avec nous pour la confrontation. Elon Musk prend en otage une classe petite section. Une seule personne pourrait sauver la situation. C'est Sarkozy, à merde à un jour près. C'est con. Adoré le gâté du pont Mono, oh oh. Déjà parce que c'est écrit assez gros, oh oh. Les reliures sont bien faites, la mise en page est propre. Et ça, ça m'obsède. Il parle de l'affreux Elon Musk pourri. C'est le propriétaire de Tesla, oui. Si t'aimes le porno de l'espace, SpaceX, c'est lui. Tadam, 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 tadam. Et The Starman qui pourrit le sky. Il envoie des navettes qui explosent, finissent à la ferraille. The Starman qui veut que la maille, non content de pourrir le ciel, il est raciste dans ses entrailles. Mais au fond, le problème chez ce type, c'est sa peau rouge tragique, sa dermite séboréique. La 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 la. Ah, je suis fan de Clara Dupont Mono, je passerai jamais à Clara Dupont stéréo. Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal, bienvenue à vous avec la bande originale.
L'amour, Clara.
Hey, c'est toi qui as David Bowie.
Oh là là
il
là
n'a
là
peur de rien.
Il sait tout faire.
La plupart du temps, c'est Bézu qui reprend.
Mais je crois que Clara est libre cet après-midi pour le clip.
Voilà une bonne nouvelle. Et Oldelaf, le 1er avril, Opération Bretzel, ce sera aux Folies Bergères à Paris.
Un forcené, donc, Elon Musk.
Non, Oldelaf.
En tout cas.
Ah, pardon.
Il prétend s'appeler ainsi. La difficulté, c'est que le véritable Elon Musk, si l'on doute vraiment l'identité du forcené, est introuvable.
Voilà, au moment de l'action, au départ, Émile gère à peu près. Il se présente, parce que dans une négociation, il faut toujours se présenter, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Donc on dit bonjour.
Vous avez passé beaucoup de temps avec eux ?
Oui, un peu. Ils ont eu la gentillesse de m'accueillir dans la cellule négociation, et c'est quand même une expérience.
Ouais, j'imagine.
C'est pas rien, et puis ça a débloqué plein de choses pour l'écriture. Donc ça, je les remercie beaucoup. Donc il se présente, il commence la négo, et le souci, c'est qu'on lui dit assez vite, Émile, il y a un problème, c'est qu'en fait, Elon Musk, pour le coup, n'est pas joignable. Alors, pour l'homme le plus connecté du monde, ça pose quelques soucis. Et par ailleurs, j'ai volontairement casé l'action en collant à l'événement Vivatech, où Elon Musk est vraiment venu.
Venu en France.
Exactement.
À Paris.
Et on lui dit, il n'y a pas de, non plus de traces de vol retour. Et je case l'action aussi, au moment où, et là c'est le réel qui a rattrapé la fiction, il se fait dégager par Donald Trump, et ça, ça s'est vraiment passé, donc c'est pour ça qu'on a avancé la parution du livre, parce qu'au départ il devait paraître en janvier, et c'est un cas de figure assez étonnant quand le réel vient écraser la fiction de ce que vous êtes en train d'écrire, donc je me suis dit, il faut qu'on se dépêche. Et je pose dans le livre, mais ça c'est imaginaire, je le dis, si Elon Musk écoute la bande originale, qu'il ne me fasse pas
mais
de procès.
Mais bien sûr,
voilà.
Bien sûr.
Mais au moment où un challenge complètement débile a ravagé X, il y a déjà eu ça sur X, paracétamol challenge, où il s'agit de manger beaucoup de plaques de Doliprane.
Mais ça c'est fou, je ne le savais pas, je l'ai appris en lisant le livre et je suis allée vérifier. En effet, c'est dingue.
Oui, il s'agit de
voir jusqu'à combien de temps le foie tient, en fait.
C'est ça, mais il y en a eu d'autres, il y a eu les Ice Bucket Challenge, etc.
Ça, c'est moins grave.
Et devant, oui, alors le saut glacé sur la tête, il y a eu quand même 2-3 ratés quand même. Mais c'est tellement absurde qu'en tant qu'écrivain, on peut que avoir envie de pousser le bouchon loin. Et j'imagine dans le livre, on dit à Émile, tu sais que c'est quand même l'homme le plus haï de la planète au moment où tu commences ta négo, parce qu'il a lancé un challenge qui s'appelle le Road Challenge et qui consiste à traverser une route les yeux fermés.
C'est fou.
Résultat, la jeunesse mondiale décimée. Parce que beaucoup trop de jeunes suivent les consignes à la lettre. Donc, vague de haine planétaire contre Elon Musk, des parents désespérés. Et on dit à Émile, tu peux pas complètement exclure qu'Elon Musk ait en fait pété un plomb et que du coup il ait pris en otage une classe de 24 gamins, de 19 gamins, à Vernet-sur-Seine. Tu peux pas complètement l'écarter. Et j'essaye de maintenir cette tension durant tout le texte.
D'où vous est venue l'idée ?
Alors moi j'avais deux centres d'intérêt qui me harponnaient le cœur. J'avais la négociation donc qui m'intéressait vraiment. Donc ça c'était depuis un moment je l'avais en tête. Et j'ai aussi l'espèce de terreur que m'inspire Elon Musk, dont je me méfie terriblement. Et donc le transformer en sujet littéraire m'aidait à désamorcer la méfiance et la crainte qui m'inspire. Donc c'est un stratagème assez assez efficace puisque j'en fais ma chose littéraire en quelque sorte. Et il se trouve aussi qu'après s'adapter mon précédent livre, j'avais un peu envie de me marrer. Et du coup, je me suis dit, fais-toi plaisir, si t'as la négo plus Elon Musk planté dans le cœur, essaie de grouper les deux, et ça a donné, voilà, ça a donné ça.
Je vous interromps un instant, Clara Dupont-Mono, on a un message de la première importance à diffuser sur Inter.
Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice.
Ryan, 13 ans, de type nord-africain, mesurant 1m52, yeux marron, cheveux bruns, porteur de lunettes noires, habillé d'un sweat jaune pâle, d'un pantalon cargo beige, de baskets blanches, avec le logo Nike rouge, nécessitant des soins constants pour diabète sévère, a été enlevé le 20 octobre à 18h à Panazol, dans la Haute-Vienne. Les suspects sont une femme âgée de 25 à 30 ans, forte corpulence, longs cheveux noirs, portant un peignoir bleu vif et un bas de pyjama blanc à motif, et un homme, corpulence moyenne, vêtu d'un pantalon de jogging noir et d'un sweat noir avec un logo Nike blanc, porteur d'une casquette noire. Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte-enlèvement@intérieur.gouv.fr.
Merci Alexandra Duboucheron, et vous réinterviendrez tout à l'heure pour cette alerte enlèvement. Clara Dupont-Monod reprend le cours de cette bande originale avec cette confrontation chez Albin Michel. C'est une collection lancée par Monsieur Duguin, je crois. Marc oui. Duguin, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps.
Exactement.
Pour Légitime Violence.
Exactement, Marc me voyait écrire là-dessus et c'est quelque chose...
Comment ça, il vous voyait écrire là-dessus?
Vous habitez ensemble?
C'est vraiment un bon copain. Il me voyait aller chasser aussi un peu sur des terres narratives qui sont pas les miennes normalement.
Oui.
Et puis il m'a aussi aidée et il a fini par me dire mais tu sais quand même Clara que je sors une collection chez Albin Michel donc franchement
c'est quoi cette collection
alors ? Ça s'appelle L'envers du décor et c'est tout l'écosystème de Marc autour de l'espionnage, de la tension. Moi j'aime beaucoup et donc c'était calibré pour sa collection donc c'était parfait.
Et quand vous lui avez suggéré Elon Musk, j'imagine que ça l'a fait sourire.
Pas tout de suite.
Ah bon
non, parce que d'abord c'est quelqu'un qui sourit peu. Je vous rappelle qu'il est quand même assez protestant, Sévenol. Donc on n'est pas dans le genre, on a avalé un clown, mais c'est ça que j'aime.
Alors attendez, moi j'ai un autre Marc Duguin en tête. Quand il vient ici, il nous montre toutes ses dents.
Ouais, mais tant mieux. Non, mais avec moi aussi. Avec quand il se sent à l'aise et quand il est en confiance. Donc il est en confiance ici. Et je lui ai envoyé. Et moi, ce qui m'a rassurée, c'est que Marc, il est très preneur en littérature des prises de risque. Il aime bien l'idée de tenter quelque chose, d'une forme de courage, après qui portera ses fruits ou pas, mais d'avoir cette prise de risque.
Oui.
Et donc lui, ce qu'il adorait, c'était l'idée que je tente quelque chose, que je déroute un peu par rapport à s'adapter, parce
bien
que
sûr.
C'est pas du tout le même genre.
On vous attendait pas nécessairement
exactement,
sur ce territoire-là.
Oui. Exactement. Mm. Et ça, il adorait. Donc j'étais en confiance aussi.
Eh bien, c'est haletant. On a envie de savoir, de percer le mystère de ce forcené Elon Musk qui a tous les éléments, en tout cas, tous les éléments que le grand public connaît sur ce personnage, ce milliardaire américain, eh bien, à chaque fois sont distillés au fur et à mesure. Donc on n'a pas vraiment de doute sur qui est cet Elon Musk. En revanche, on s'interroge un petit peu plus sur le mobile et les motivations de cette prise d'otage. On continue d'en parler dans la bande originale.
Vous avez envoyé un livre à Elon Musk ou pas?
Non.
Non, parce que je précise
que... qu'on le traduise en anglais d'abord.
Ouais, dans la postface, quand même, Clara Dupont-Monod prend ses précautions en disant voilà, je me suis amusée à fabriquer une fiction, entre parenthèses, Elon Musk, si tu me lis, ne m'intente pas un procès. J'ai adoré la petite précaution, au cas où, sur un malentendu. Et c'est peut-être pas plus mal, d'avoir pris cette précaution. Vous savez, votre livre, en fait, eh bien, Lisa Delmoitier, elle l'aurait pas fait comme ça.
Alors,
eh non.
Alors.
Ah, Lisa.
Oui.
Bah, tu l'aurais pas fait comme ça. Hein. Je ne peux pas te dire ça.
C'est l'heure de travailler, Lisa.
Non,
bien sûr que non. Moi, si un jour je fais une prise d'otage, je ne prétendrai pas m'appeler Elon Musk. D'office, je dis que je suis Nagui. Enfin, c'est trop cool, c'est la semaine où on peut dire ce qu'on pense de lui. Venez, on fait un tour de table. Enfin, pas littéralement, Olivier, assieds-toi.
Un tour de table.
Mais c'est bien ça, non? Un preneur d'otage en Nagui. Le premier des mouflets qui oublie les paroles, je le défonce. Frère Pierre. Frère Pierre? Frère Jacques? Oh, vous avez capté, quoi.
Non, continue.
Ah, bon, non,
mais bon, super idée.
C'est ça le point de départ de votre livre, Clara, aidez-moi. Non, un forcené négocie avec un mec du GIGN en affirmant être Elon Musk. Quelle idée ! Quitte à voler une identité, fais-toi plaisir, prends pas l'autre demeurée, mi-robot, mi-lézard. Elle est où l'époque où les mecs se faisaient passer pour Brad Pitt ? Vous vous souvenez ?
Oui.
En même temps, c'était cette année. Hein. Mais Elon Musk, c'est la personne la moins sympathique au monde. On peut pas nier ses capacités, mais un mec pareil, tu utilises son cerveau pour avancer, mais tu le mets pas à la tête d'une entreprise ou pire en politique. Putain, qu'est-ce que ça me manque l'époque où on enfermait les geeks à la cave ? Vous vous souvenez ?
Oh non.
Je teste votre mémoire aujourd'hui, hein. C'est le sous-thème, sachez-le. Non, mais c'était le bon vieux temps. Il servait à quelque chose, il passait la journée à coder pour nous sans voir le soleil, mais maintenant, non seulement ils sont sortis de leur cave, mais on leur donne un boulevard pour prendre des décisions qui vont impacter nos vies à tous, sauf que les geeks, ben, ils se souviennent qu'on les enfermait à la cave. La mémoire du geek, elle ne rame pas. C'était un petit jeu de mots informatique pour amadouer les geeks qui doivent pas raffoler de ma chronique jusqu'à présent.
Non.
Je voudrais pas qu'ils hackent mon cloud, j'ai des nudes.
Waouh.
Et ça...
En vrai,
c'est pas grave. Mais le truc, c'est que sur certains, on voit ma cellulite. Voilà. Moi, je suis vulgaire, mais j'ai mes insécurités. Quoi.
Je
vous pouvez voir mes seins, mais pas mon acné. Alors attention, le coup de la cave, pas tous les geeks. Hashtag not all geek. Mais t'en as comme le Musk qui se souviennent de l'époque où on se moquait d'eux et personne voulait les baiser. Hein. Résultat, maintenant, ils envoient sur Mars des fusées en forme de bite. Hein. Bon, pour leur défense, parmi tous les atouts du vagin, l'aérodynamisme n'en est pas un. Je vous ai déjà raconté la fois où j'ai essayé de me servir du mien comme d'un cerf-volant.
Non.
Voilà, c'est ce qu'ils appellent une après-midi en famille qui finit en eau de boudin. Voilà. Daniel, je t'arrête tout de suite, c'est pas moi le boudin. Tu me juges sur un nude mal cadré, je trouve pas ça rigolo. Non, mais je dis pas ça pour la vanne. Vous voulez savoir à quel point Elon Musk se rattrape de sa frustration sexuelle? Il a 12 enfants.
Ouais.
Si ça, c'est pas l'énergie du gars qu'on lâche en un buffet à volonté après un régime. Il a tellement d'enfants, il a même plus le temps de les nommer. Il y a une fille qui s'appelle XIA12.
Ouais.
Ah, ok, donc maintenant, pour choisir les prénoms, on lâche le chat sur le clavier. Enfin, c'est ça la méthode. C'est comme dans le film de Social Network dans lequel tu vois la création du monstre chez Mark Zuckerberg, avec la frustration sexuelle incarnée dans sa rupture. Cela dit, gestion lucrative de la rupture. Le mec, on le largue, il bâtit un empire. Moi, on me largue, je prends 10 kilos et j'envoie à ma psy. Tu dors. Mais regardez maintenant les dégâts causés par Facebook en désinformation, tout ça parce que les filles ne le regardaient pas. Donc voilà, ma conclusion. Messieurs, mesdames, de grâce, quand vous voyez passer un geek, sucez-le. Hein. Et on va creuser, il en va de la survie de l'humanité.
Oh là 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 là. Faites absolument ce que vous voulez quand vous voyez un geek. Voilà, c'est juste ce message.
Il n'y a aucune obligation.
Et voilà, c'est ça, Daniel. Il a été effrayé un peu quand même. Hein.
Oh. Je dis ça pour toi, Daniel.
Bon, il a fait un sursaut.
Remontada sur France Télévisions, c'est quoi? C'est le spectacle de
Lisa Delmoitier.
Geek absolument. Ou pas, vous pouvez regarder. Habillé ou pas, vous pouvez regarder.
Et en effet, Elon Musk a plein d'enfants. Et donc, on s'étonne dans le livre, dans cette confrontation, d'avoir un homme qui détient une classe de maternelle, qui ne veut répondre à aucune forme de besoin des enfants.
Oui, c'est ça qui inquiète Émile. Au GIGN, il vous explique qu'une des priorités, quand on négocie, c'est d'humaniser les otages, afin que le preneur d'otages ait en tête que ce ne sont pas des numéros ou des robots, et qu'ils ont une identité avec une existence derrière. Or, ce qui inquiète Émile quand il fait le débrief avec ses supérieurs, c'est qu'il persiste à dire la maîtresse, et non pas Mathilde, les enfants, il a une jauge de patience quand même assez étroite, et tout ça commence à crisper un peu les acteurs de cette prise d'otage. Par ailleurs, il a un discours qui est extrêmement cortiqué, notamment autour de l'intelligence artificielle. Il se trouve que l'école où il a pris en otage des enfants est une école sans écran.
École pilote, l'Aurore.
École pilote, voilà, qui a bâti toute sa scolarité indépendamment des écrans. Et le résultat, c'est que les enfants qui sont dans cette école ont une intelligence x3.
Alors, on va en parler tout à l'heure avec notre spécialiste Louise Cunéo, spécialiste des questions d'éducation, justement, sur ces écoles pilotes où on dit que les grands géants de la Silicon Valley, les grands inventeurs mettent à distance leurs enfants des tablettes pour les prémunir sans doute, je ne sais pas, de dérives ou de fonctionnement. Là, on voit, en tout cas dans votre livre, que l'intelligence est multipliée par 3.
Voilà.
Et donc, cette population-là, on pourrait se dire, elle inquiète Elon Musk.
Exactement.
Parce qu'elle n'a pas accès aux réseaux sociaux, donc elle n'est pas nécessairement
elle
sous
le
son
menace.
Joug,
voilà. Elle le menace dans son savoir. C'est pour ça que les gars du GIGN sont quand même un peu crispés, d'autant que quand il s'agit d'aller faire d'emmener les enfants aux toilettes, ils refusent. Du coup, la maîtresse, qui a quand même un sang-froid assez solide, prend la cage du cochon d'Inde, enlève la grille et le cochon d'Inde, bien sûr.
Popiette.
Qui s'appelle Popiette, et elle incite les enfants, ce qui est malin, à faire pipi dans la litière de Popiette. Et tout ça, Émile le reçoit et il essaie de naviguer avec ce forcené, donc Elon Musk. Il n'arrive pas à savoir si les enfants l'intéressent ou l'encombrent.
Oui,
C'est-à-dire qu'à un moment, il lui dit, mais quand même, Elon, entre des obstacles et des opportunités, il y a quand même une différence. Donc, comment vous voyez ces enfants? Parce que ça stresse tout le monde. À l'extérieur, les parents sont devenus fous.
C'est ça, parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour de cette prise d'otage.
Voilà.
Parce que nous, on est dans ce face-à-face, mais il y a les parents, il y a les responsables de l'établissement, et puis les politiques.
Il y a les politiques, et il y a surtout, en vertu de ce road challenge avec la haine qui monte, l'intelligence artificielle qui commence à bombarder les médias d'images fausses de Elon Musk tenant en joue une petite enfant de 4 ans, c'est complètement faux, mais du coup ça fait monter la mousse devenue folle, et du coup apparaît le hashtag Musk montre-toi, qui est une chasse à l'homme planétaire, et donc Émile est aussi face à ce mouvement de haine qui monte contre lui, et il faut gérer ça aussi.
Et c'est un individu aussi normal, cet Émile, ce négociateur, qui lui aussi va forcément jouer au rejet
jouer des choses de son existence dans cette prise d'otage, puisque lui doit entrer dans la tête du forcené, mais le forcené, lui aussi, l'observe et voit à quel moment il réagit de façon plus ou moins violente et sans rien dévoiler de la suite
oui,
du récit.
Oui, c'est le mot s'observer, parce que même l'étymologie de confrontation, c'est confrontare, c'est être en bordure d'eux, en fait. Donc il y a plein de fois où, comme dans un pas de deux, il s'estime. Et puis le forcené, il adore discuter avec Émile.
D'ailleurs, quand on lui propose de changer de négociateur, c'est hors de question.
Il dit, c'est hors de question, vous me remettez Émile, et je continue à négocier avec lui. Et alors, pour le coup, les gars du GIGN vous expliquent que de temps en temps, ça peut arriver, des négociations qui durent très longtemps, où il y a, en effet, une volonté un peu exclusive de la part du forcené, parce qu'il y a quelque chose qui se tisse, et que c'est bien sur ce terreau-là que vous allez tenter de faire infléchir sa décision.
Et la durée est importante, parce que réussir à faire sortir les enfants le plus rapidement possible, tout en ayant réussi à comprendre la motivation en fait de cet Elon Musk. Pourquoi détient-il les enfants ? Alors on a esquissé un petit peu quelques éléments sur l'intelligence artificielle, sur son envie d'abêtir les gens.
Oui, alors ça
c'est un projet politique.
Mais à partir du moment où les enfants sont très intelligents qu'il a sous la main, Émile lui dit bon, ce sont des enfants qui vous encombrent. C'est ça l'idée. C'est contre vos projets d'intelligence artificielle, etc. Et en fait, le forcené Elon Musk a un discours qui étonne beaucoup Émile. Il dit pendant des décennies, des générations, on a cru que l'intelligence artificielle, le progrès, nous tirerait vers le haut, nous, l'humanité. En vérité, elle s'apprête prête à nous dévorer. Donc, notre seule planche de salut, notre seule résistance face à l'intelligence artificielle, ce qu'elle ne pourra pas comprendre, c'est la pulsion, c'est la bestialité. Si on essaie de rivaliser avec elle côté neuronal, on est perdant. En revanche, elle ne peut pas comprendre le frémissement d'une foule, elle ne peut pas comprendre le côté un peu sanguinaire d'une meute. Donc, je m'emploie à abêtir l'humanité. Voilà pourquoi j'ai racheté X et que j'ai supprimé les modérateurs, puisque je transforme les gens en cheptel déchaîné.
C'est un ring de boxe.
Voilà. Là où on me voit comme un diable, en vérité, je vous sauve la vie. Donc son discours, c'est ça.
Ça, c'est le postulat de ce personnage d'Elon Musk qui détient ses enfants dans la confrontation, le nouveau roman de Clara Dupont-Monod aux éditions Albin Michel. À nouveau, un message de la plus haute importance avec cette alerte enlèvement.
Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice.
Ryan, 13 ans, de type nord-africain, mesurant 1m52, yeux marrons, cheveux bruns, porteur de lunettes noires, habillé d'un sweat jaune pâle, d'un pantalon cargo beige, de baskets blanches avec le logo Nike rouge, nécessitant des soins constants pour diabète sévère, a été enlevé le 20 octobre à 18h à Panazol, dans la Haute-Vienne. Les suspects sont une femme âgée de 25 à 30 ans, forte corpulence, longs cheveux noirs, portant un peignoir bleu vif et un bas de pyjama blanc à motif, et un homme, corpulence moyenne, vêtu d'un pantalon de jogging noir et d'un sweat noir avec un logo Nike blanc, porteur d'une casquette noire. Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte-enlèvement@interieur.gouv.fr.
Voilà pour cette alerte enlèvement. Clara Dupont-Monod, on parlait de cet Elon Musk qui donc détient ses enfants, qui veut les éloigner d'une certaine façon de l'intelligence, parce que c'est le plus grand danger, c'est ce qui peut susciter de la peur chez ce personnage, que le cérébral gagne sur l'animal, vous l'expliquez très bien. Mais c'est aussi un personnage qui est détesté à cause de ce challenge mondial et en plus qui vient de vivre une grosse déception, une déception politique.
C'est ça, mais alors moi ce qui m'amusait c'était de faire de Elon Musk, et toujours en vertu de désamorcer la peur et la méfiance qui m'inspire, moi je me suis régalée à imaginer en fait un Elon Musk désespéré, en fait un Elon Musk complètement amoureux des mots et qui a consacré sa vie...
Ça c'est une fiction.
Oui, complètement. on sait pas, remarquez, mais qui a consacré sa vie et sa carrière à détruire les mots, puisque quand les réseaux sociaux, c'est pas vraiment des champions de la formulation...
le nombre de signes, de toute façon...
Exactement, puis ça rabote les mots, l'intelligence artificielle, où il a placé aussi toute sa fortune et son énergie, vise à remplacer la parole humaine, coloniser l'espace, c'est son... L'espace l'espace. Oui. Planète Mars, c'est un espace où il n'y a pas de langage. Donc, en fait, il se pardonne pas cette trahison. Lui qui adore les mots, et ben voilà qu'il a finalement passé sa vie à les mettre par terre. Et j'ai adoré créer ce personnage où Émile comprend son désarroi et dit, mais en fait, vous vous en voulez à mort. En fait, vous adorez les mots et vous vous en voulez à mort d'avoir consacré votre vie à l'inverse de ce que vous aimez.
Une sorte de repentance un peu géniale. Et puis, il s'est fait virer du gouvernement. Donc, il se voit aussi, aux yeux du monde, un peu insulté dans sa supériorité.
Oui, et ça, c'est l'ex-femme de Elon Musk que je fais intervenir, mais fictivement. Je l'ai appelée Shirley, parce que j'adore Shirley comme prénom. Donc, et il y a aussi Beverly, j'adore Beverly. et en fait...
Il n'y a pas Kimberly.
Ouais, j'aurais pu Kimberly. Dans ce cas, la littérature, ça, c'est vraiment sympa, parce qu'on peut tellement se marrer, se faire plaisir. Mais donc, Shirley
arrive. Quoi, le psy?
Et ben, il dit, écrivez des livres plutôt que de me payer des consultations, donc c'est très bien.
Ouais, c'est bien.
Mais elle dit... Le fait d'avoir été évincé par le gouvernement Trump, pour lui, c'est un drame. Vous ne mesurez pas à quel point, puisque Elon Musk est quelqu'un qui place la politique au-dessus de la technologie. Par ailleurs, c'est un hypersensible. Donc, en fait, elle trace un portrait qu'on n'a pas l'habitude de lire, mais parce que je pense qu'il est faux, en fait. C'est que la fiction qui peut l'inventer. Et c'est elle qui met le doute tout de suite à Emile et qui dit, pardon, mais j'ai deux enfants en commun avec lui.
C'est lui.
Et ouais, et en fait, c'est lui. Et vous vous en rendez pas compte, je connais l'arrière de sa voix, je sais quelle micro-pensée est reliée au micro-geste qu'il effectue avant de se coucher le soir. Je le connais par cœur. Et en fait, c'est Elon Musk qui est en train de se noyer, qui en fait est en train de très mal vivre.
Et il devient un individu encore plus dangereux.
Exactement. Et il voit bien la vague de hargne planétaire qui monte sur lui. Puis notamment, il y a cette désillusion par rapport à l'intelligence artificielle où il s'est rendu compte qu'il s'était complètement trompé. Donc, en fait, vous avez affaire, Émile, à quelqu'un qui perd pied. Et donc, Émile, ça lui met la tête à l'envers, parce qu'il dit, mais c'est pas possible, ça peut pas être lui. Et là, en plus, il y a ses confrères de la PJ qui disent, écoute, quand même, encore une fois, il n'y a pas de vol, de traces d'avion de retour. Sa chambre d'hôtel a été tout à fait débarrassée et très clean.
C'est très probable.
Donc, tu ne peux pas complètement écarter cette éventualité-là.
Alors, vous vous êtes amusé aussi avec le nom de votre héros, Émile Lazo.
Ouais.
Et vous donnez les clés, d'ailleurs. J'ai trouvé ça marrant que dans la postface, vous nous expliquiez que Émile Lazo, eh bien, c'était Zola à l'envers.
Ouais.
Et pourquoi lui ?
Ah bah parce que j'adore Zola. Dans ce cas-là, il y a un moment où vous faites plaisir, c'est toujours chouette ça. Mais c'est non. Beverly Zola, mais j'aurais adoré.
En fait, vous faites plaisir à chaque page. C'est génial.
Oui.
Bravo.
Mais la littérature, c'est aussi ça. C'est pas que le crime maudit dans sa chambre de bonne, en train de se torturer le ventre. C'est aussi de la joie quand même. On prend un énorme pied à écrire ça et on espère que ce sera contagieux.
Ah oui.
Mais c'est l'idée de la farce, c'est-à-dire que j'en parle aussi dans la poste. Se fasse, mais au Moyen-Âge, on y revient toujours, parce que le Moyen-Âge a tout inventé, mais au Moyen-Âge, j'adore ça, oui. et la farce, en fait, était, il y avait des pièces de théâtre religieuses sur le parvis des églises, et soudain surgissaient des comédiens qui faisaient n'importe quoi, mais du faux n'importe quoi, parce que qui résonnait un peu vrai quand même, et on appelait ça une farce, d'où le mot en cuisine, farcir, qui consiste à glisser quelque chose dans une volaille ou une tomate ou ce que vous voulez, mais c'est l'idée qu'on vient introduire quelque chose qui est assez inattendu à l'intérieur d'un ensemble.
Là, Daniel, il n'était pas prêt. Là. Ça l'a inspiré. Vous voyez là, ça l'a inspiré.
Voilà.
C'est la confrontation chez Albin Michel. Clara Dupont-Mono est notre invitée et c'est Amandine Lourdel aussi dans la bande originale.
Salut.
Ouais,
écoutez-moi, ça va. On va faire une smartbox nuit insolite.
Oh waouh, non.
En duo. Oh. Ce qui est plutôt insolite quand on connaît mon statut marital, à savoir isolée depuis 2016. C'est ma mère. Ma mère, chaque Noël, chaque anniversaire, elle tape sur une offre à deux, en duo, en se disant bah, d'ici là, elle aura rencontré quelqu'un. Un peu comme les gens qui votent à droite au cas où ils deviennent riches. Moi, ça me dérange pas, j'adore faire des activités toute seule. Bon, juste une fois, je me suis un peu forcée à finir la deuxième bouchée à la reine du menu semi-gastro du restaurant La Truie qui doute. Et j'ai aussi un peu galéré pendant le week-end le Mont-Lozère en tandem, mais sinon, c'est cool. Ah, et si, une autre fois, j'ai pas cliqué sur la bonne réservation, je voulais prendre Weekend Tipeee en Ardèche, je me suis trompée de ligne, j'ai pris une Love Room dans le maquis. Vous savez, depuis le film 50 nuances de grès, les Love Rooms, c'est dans le top 3 des logements les plus réservés. En fait, c'est des chambres aménagées spécifiquement pour la pratique du sexe et l'exploration de nouvelles pratiques, genre le BDSM, le tantrisme ou encore la Via Ferrata. Via Ferrata, non, parce que franchement, quand tu vois l'attirail, tu te dis que pour raviver la flamme, c'est quand même mieux d'avoir validé un CQP cordiste. Et je peux vous dire que j'ai eu l'air bien con quand je me suis coincée toute seule la tête dans la balançoire en cuir et que je me suis mise à hurler dans la cave d'un mas provençal pour que l'autre qui habitait au-dessus vienne me libérer. Bon, là, comme nuit insolite, j'ai choisi dormir dans une chambre bulle au cœur de Lyon. Parce que je sais reconnaître un bon plan quand j'en vois un. Et bah franchement, peut-être que c'était la smartbox de trop. Surtout que là, le concept est pas logique. Une nuit dans un endroit insolite, sachant que la nuit, c'est le moment où t'es le moins conscient de ta vie, c'est comme offrir une dégustation de bière à un incontinent. C'est gâché. Mais en plus, le mot insolite, il veut tout et rien dire. On a tendance trop souvent à confondre nuit insolite et nuit d'exception. Mais une nuit insolite n'est pas forcément exceptionnelle.
Mais oui.
Là, typiquement, ils ont pris deux trucs pas ouf, à savoir une chambre bulle et Lyon, et ils en ont fait quelque chose d'insolite. Non, parce que dormir sur un banc à Gare du Nord, c'est aussi insolite. C'est pas pour ça qu'on en fait des smartbox. Avec l'option couverture de survie, une soupe à la tomate offerte. Quoique, quand tu vois le super boulot que font les assos pendant les maraudes, tu te dis que le service est pas plus mauvais qu'au fond du jardin de Corinne et Bruno. Super hôte, qui pour la modique somme de 25 euros te laisse une glacière sur le perron avec dedans un gratin de ravioles sauce qu'est-ce que je fous là, et un panier Dioplait à l'ananas parce que c'est le parfum de yaourt que personne n'aime dans la famille. Là, c'était vendu comme une nuit dans une bulle au plus près de la nature. Sauf qu'une fois que tu te retrouves toute seule dans ta bulle, déjà la bulle, on était clairement sur une bâche récupérée à un pot de couvreur posé sur les arceaux d'une tente quechua sauvée in extremis de la déchetterie d'Auxerre, tu réalises que t'es surtout au plus près de toi-même. Et que, à bien y réfléchir, la faune locale sauvage dans le coin, à part deux, trois pédophiles célèbres, tu sais pas où tu te fais. T'as vachement plus la sensation que c'est les animaux qui t'observent plutôt que l'inverse. En fait, j'ai vécu ce que vivent les animaux de parc animalier, et c'est vrai que c'est oppressant. En fait, j'ai donné l'occasion à des chevreuils de regarder à quoi ressemble la vie d'une intermittente du spectacle qui se retrouve un samedi soir en pyjama à 19h30 dans un igloo en plastique à se faire chauffer de l'eau pour préparer sa soirée camomille et anxiété. En fait, c'était plus pour eux que pour moi que c'était une nuit insolite. En fait, j'espère leur avoir donné une belle leçon d'humilité quand j'ai entamé mon quatrième épisode de New York Unité Spéciale. Pas forcément une bonne idée d'ailleurs de regarder ça toute seule au milieu de la brume d'octobre. Le proprio m'avait dit « Tu verras, tu seras au plus près de la forêt. » Ouais, au plus près de la forêt, mais à l'autre bout des sanitaires, Bruno. À 3h du mat', la tisane avait fait effet et franchement, j'étais terrorisée à l'idée de me retrouver en culotte à chercher la cabine des toilettes sèches au milieu d'une nuit aussi profonde que mon vide existentiel, avec la torche de mon portable grelottante à chouiner. Eh ben, c'est vraiment super d'être une femme libérée de toute injonction patriarcale, mais franchement, déjà qu'on se fait pas souvent baiser, alors c'est pour finir dévoré par des blaireaux et venir compléter le casting des disparus de Lyon. Merci pour la bulle à soie, Virginia Woolf. Et ben vous savez quoi, une glacière, ça peut très bien faire office de peau de chambre.
Oh,
et
non,
ça, c'était vraiment insolite. Merci de m'avoir écouté.
Elle m'a épuisé.
Ah, ça donne envie de partir en week-end avec Amandine.
Attention, Amandine est à Paris les mardis et les mercredis à l'Européen. Vous ne pouvez pas la louper, il y a des affiches d'elle partout dans Paris. Magnifique. Oui.
Et puis maintenant, je ne verrai plus les glacières comme avant.
Et moi, Virginia Woolf non plus.
La confrontation, Clara Dupont-Monod, avec des personnages qu'on a l'impression de retrouver quand le Premier ministre dit « La République, c'est moi ». Il y a un petit clin d'œil ?
Non, je ne sais pas.
Non, ok. Et avec aussi des véritables prises d'otages qui sont évoquées par l'équipe, qui s'en inspire d'ailleurs pour dire que les ravisseurs à tel moment, on a pu intervenir et à d'autres pas, puisque forcément, le GIGN se retrouve confronté aux politiques qui veulent un résultat. Tout de suite.
Oui. Et souvent, quand je parlais de la jeunesse du projet, on me disait « Ah, ben, c'est Human Bomb. À Neuilly, le référent qu'on a d'actu tous, c'est la prise d'otage dans l'école maternelle avec, justement, Sarkozy.
Ouais. »
Alors là, c'était le RAID qui opérait. Là, c'est le GIGN. Mais ce qui est très intéressant quand vous discutez avec les deux, c'est qu'ils insistent beaucoup sur quelque chose, disent-ils, où la société, nous, on n'a pas forcément conscience, qui est l'idée de du temps hyper ramassé. C'est-à-dire qu'eux vous disent « On a une demi-seconde pour décider ce qu'il faut faire. »
D'accord.
Donc c'est quelque chose de reptilien, c'est quelque chose de... cette temporalité très ramassée, elle demande tellement d'entraînement avant, et c'est vrai que souvent dans les prises d'otages, tout se joue en quelques secondes. À un moment, mais ça c'est une histoire vraie que m'a raconté...
Parce que là, pardon, moi j'ai appris que pour le Human Bomb, c'est 46 heures.
C'est ça.
C'était en 93 et ils ont donc endormi, c'est ça ?
Non, c'est après parce qu'en fait le président se trompe. Et ils avaient... Oui, alors il avait demandé à être nourri parce qu'il avait faim. On lui apporte une pizza, mais il y a des somnifères dedans. Et il tombe à la tête dans sa pizza. Mais il y a d'autres négociations. Là, c'est pour le coup, je les ai mis dans la bouche d'Émile, mais ça c'est ce qu'on m'a raconté les messieurs du GIGN, la négociation la plus courte, ça a duré une seconde. Et en fait, oui. Il me racontait, et c'est Émile le prend à son compte, c'est un détenu qui a pris en otage un gardien dans une prison parce qu'il voulait une télé ou quelque chose comme ça. Et le fait que le GIGN arrive, et on se présente toujours. Donc il dit bonjour, je suis, je sais plus comment, du GIGN. Et au mot GIGN, le détenu a eu tellement peur qu'il a dit je me rends. Donc en fait,
fin de l'histoire.
Voilà, négociation qui a duré donc une demi seconde.
Mais faites ça la prochaine fois à la banque.
Voilà.
Bonjour. GIGN.
Non parce que là on ne sait
j'ai
pas.
Le pel. Parce que
j'ai le pel.
Ça c'est une blague de Daron.
J'ai le pel.
C'est ça. Parce qu'on ne sait pas si Elon Musk est armé ou pas. En fait, c'est ça la difficulté.
Oui, ils sont comme ils peuvent pas le voir. En fait, c'est ça aussi. C'est qu'il y avait aussi derrière une espèce de critique un peu vitriolique. Parce que les deux hommes se parlent sans se voir. Donc c'est d'abord un hommage à la voix, et Émile est hyper tendu vers tous les arrière-tons de la voix, comme on lui a appris à faire, pour décoder quelqu'un. Il est quand même privé donc, de 50% de la capacité de négociation, puisqu'il n'a pas le visage devant lui. Et l'un comme l'autre se parle, mais comme nous tous, nous parlons derrière nos écrans à d'autres gens sans les voir. Mmh. En fait, ils sont eux-mêmes une espèce de réplique de cette société que Elon est lui-même en train de dénoncer. Donc, il n'y a pas de contact autre que les mots, la voix, et ils ne se voient pas.
Avec une revue de presse aussi, parce que il faut bien que la presse réagisse à cet événement. On est en mai 2026, hein, c'est là où vous placez votre action, avec des magazines et des journaux du monde entier qui racontent, selon leur vision à eux, l'événement en fait. Pourquoi
voilà.
Cette revue de presse ?
Alors parce que narrativement parlant, il me fallait un point de bascule pour que le livre révèle des choses dans la deuxième partie.
Ouais.
Donc il fallait un point de bascule je me suis amusée avec les... Puis ça permettait de faire passer des messages. La Shirley en question, ex-femme de Elon Musk, elle passe son temps à répéter. En fait, elle l'a dans la peau. Quand elle voit Emile, elle n'arrête pas de lui dire « Non mais c'est lui, mais je le soutiendrai en fait, quoi qu'il se passe, je pardonnerai. » Donc Émile comprend ça, et en fait en lisant la revue de presse, on s'aperçoit qu'elle a racheté Neuralink pendant qu'il n'est pas là, que vu que les cours des actions se sont toutes effondrées, donc en fait il est en train de tout perdre, qu'elle a racheté Neuralink, qu'elle s'est trouvé un autre fiancé, et elle a cette phrase dans je ne sais plus quel journal féminin, où c'est portrait d'une femme puissante, où elle dit, ouvrez les guillemets, avancer c'est pas se renier. Et on est là, ouais putain Shirley,
en même temps
elle a vachement le moral quand même.
Elle est aussi cynique que lui d'une certaine
façon.
Mais
c'est horrible, donc, c'est cynique, c'est atroce, c'est cynique.
Ça équilibre,
oui.
Ça équilibre cette confrontation. Donc dans cette collection lancée par Marc Duguin, l'envers du décor chez Albin Michel, Clara Dupont-Mono est notre invitée. Et il est 11h45 sur France Inter. Écoutez attentivement cette alerte enlèvement.
Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice.
Ryan, 13 ans, de type nord-africain, mesurant 1m52, yeux marrons, cheveux bruns, porteur de lunettes noires, habillé d'un sweat jaune pâle, d'un pantalon cargo beige, de baskets blanches avec le logo Nike rouge, nécessitant des soins constants pour diabète sévère, a été enlevé le 20 octobre à 18h à Panazol, dans la Haute-Vienne. Les suspects sont une femme âgée de 25 à 30 ans, forte corpulence, longs cheveux noirs, portant un peignoir bleu vif et un bas de pyjama blanc à motif, et un homme, corpulence moyenne, vêtu d'un pantalon de jogging noir et d'un sweat noir avec un logo Nike blanc, porteur d'une casquette noire. Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte-enlèvement@intérieur.gouv.fr.
Voilà pour cette alerte enlèvement sur France Inter. On reprend avec vous, Clara Dupont-Mono. On va s'intéresser à votre bande originale. On va y consacrer un temps bien précis, bien court, parce qu'ensuite, on va écouter notre spécialiste, Louise Cunéo, parce que forcément, avec cette école pilote que vous mettez en scène dans le livre, on a envie de savoir un petit peu quelles sont les préconisations autour du numérique pour nos enfants. On est en pleine vacances scolaires, en plus, ça va pouvoir nous intéresser, savoir ce qui est utilisé, intéressant dans les méthodes ou pas. Mais avant ça, on commence en 73. Vous écoutez.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?
Soirée des glingues.
C'est la musique à la maternité, j'ai l'impression, en 73, à la naissance de Clara.
Non, mais c'est
le premier souffle, le chant des partisans. Et ça, c'est vraiment la classe.
C'est beau, ça.
Ah, c'est beau.
C'est beau, c'est beau.
Ça me file les poils, ah bah, comme dirait
aussi.
Daniel.
Merci, ouais. Bah, moi aussi. Après, non.
Gratuit.
Je sais pas pourquoi.
Vous voulez faire la
gueule. Oui.
Non, mais c'est tout le socle de ma famille, Cévenol, dans les Cévennes.
Protestante.
Protestante.
C'est pour ça que vous entendez bien avec Marc Dugain.
Mais j'aime beaucoup ce côté. Ce côté point serré comme ça, loyal, c'est le chant des partisans, mais c'est merveilleux.
Et c'est l'ancien français aussi qui vous passionne à la
ouais.
fac.
Ouais, l'ancien français, exactement.
Comment vous tombez dedans? Il y a une œuvre en particulier?
C'est Tristan et Iseult, eh oui. Où je tombe dedans, où je suis mais alors vraiment stupéfaite par la modernité, parce qu'ils inventent en fait tout.
Ouais.
Et que ce portrait de cette femme mariée qui veut vivre sa vie, on est quand même au 12e siècle, enfin franchement, chapeau bas. Et le mari et qui reste amoureux d'elle jusqu'au bout. Enfin, franchement, en matière de modernité décoiffante,
et ça, ben justement, ce qui suit va, ce qui suit va décoiffer. On est en 97. Vous écoutiez.
Oh, c'est vrai que ça décoiffe.
Ah bah après le chant des partisans.
Ah oui.
Les forbans. Je ne m'attendais pas à trouver les forbans dans la bande originale de Clara.
Mais attendez, mais ouais. J'ai hésité avec Modern Talking.
Ah ouais.
Donc ouais. Mais pour moi, il y a bien, pas hein. mieux. Il y a pas mieux côté variété des années 80.
C'est vrai.
Ah, pour moi, c'est quelque chose de. Et 97, c'est là où je commence à être journaliste.
Oui, vous passez de Tristan et Iseult à Cosmo.
Voilà, c'est ça. Mais là marche avec l'autre, ouais. Parce que j'ai une petite vie intérieure sur le Moyen-Âge. Et ce journalisme-là, après, il y a eu Marianne, le magazine Marianne qui se fondait avec Jean-François Kahn, où c'était un bouillonnement, où j'ai appris mon métier là-bas. Et ça a été un truc hyper rock'n'roll.
98, vous écoutiez.
La base.
Et c'est votre premier roman en 98, premier livre, Eova Luciole.
Oui, et c'est l'histoire d'une petite fille qui se réveille un matin avec des ailes dans le dos. Et ça la gratte, elle ne sait pas comment faire, et par ailleurs, elle ne lui sert pas à voler, elle n'y arrive pas à voler avec. Donc en fait, c'est quand même très encombrant. Et donc, c'était évident que c'était Goldman qui, avec Gottlieb, je les mets juste au-dessus de Dieu.
C'est vrai?
Ouais.
Oui, c'est comme ça. C'est
Gottlieb, ouais. Goldman, au-dessus de Dieu.
Alors en 2003, on écoute Cyndi Lauper. Pour l'histoire d'une prostituée.
Oui, ça c'était mon premier livre par roman,
ouais.
Où j'ai suivi une prostituée pendant un an.
Une jeune femme de 21 ans, ouais.
Ouais, et le deal était que je ne m'interdisais aucune question et elle ne s'interdisait aucune réponse.
Quelle a été votre question la plus...
À quoi on pense avant d'aller voir des clients, à quoi on pense en se maquillant, à quoi on pense après, le rapport à l'argent, le rapport à la violence, le rapport à la beauté.
Et qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre?
C'est que tout était inversé, c'est-à-dire que c'est un moi, petite bourge intello, face à quelqu'un qui a cette vie-là. C'était très intéressant de voir que les valeurs étaient inversées. Dans son monde à elle, en gros, on couche, après on voit si on a deux, trois trucs à se dire. Dans le mien, c'est l'inverse. On voit si on a deux, trois trucs à se dire, et puis après, on couche.
Pourquoi? J'en étais tellement sûre.
Elle était comme ça. Non, après, je dis pas que c'est général, mais elle était comme ça. Le rapport à l'argent, quelque chose de très suspicieux qu'elle avait, ça servait à acheter les sentiments. Tout est complètement à l'envers, y compris la violence. Dans mon monde à moi, on tape quand on n'a plus de mots.
Oui.
Dans le sien, on n'est pas exclu qu'on tape d'abord et après on entame la conversation. Donc en fait, c'est une personne que j'aime beaucoup et au point serré avec laquelle la vie n'avait pas été tendre. Et puis il y avait une valeur documentaire de montrer ce que c'était quand même que ces silhouettes qu'on voit passer au bord des routes sans s'arrêter, si on ne s'arrête pas. Et donc qui ont des vies, des prénoms et qui viennent de quelque part et voilà ce qui leur est arrivé. Et ça, c'était très important.
Et on va se tourner vers notre spécialiste Louise Cunéo. Bonjour Louise, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Point, spécialiste des questions d'éducation. Donc on parlait de cette école pilote, l'Aurore, où le numérique n'a pas lieu d'exister, où les enfants sont ouverts à autre chose.
Où ils mettraient leur basket.
C'est ça, comme les forbans. Bravo Louise, on va vous confier le ministère de l'Éducation nationale. Les écoles sans tablettes, sans technologie, est-ce que ça existe vraiment?
Alors, ça existe, en tout cas en maternelle, en élémentaire. C'est déjà pas si mal.
Oui.
C'est déjà un bon début.
Mais c'est pas vraiment des écoles sans, c'est-à-dire que c'est pas volontaire qu'il n'y ait pas...
Alors, il existe quand même des moyens de faire un peu de numérique sans en faire trop. Il y a des au collège, on n'a pas le droit au téléphone portable. Néanmoins, certains enseignants les utilisent pour faire ce qu'on appelle des caouts, qui sont des espèces de tests en direct. Globalement, jusqu'au collège, on arrive à s'en préserver. À partir du lycée, c'est tellement impossible que même, par exemple, la région Île-de-France fournit des ordinateurs à tous les lycéens. Donc, c'est déjà fichu, quoi. Et la plupart des livres scolaires n'existent plus. En version papier à partir du lycée.
Les écoles tout technologie, donc, ça existe.
Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'on a tout un spectre. Eh oui.
Décidez-vous.
On m'a prénommé au ministère de l'Éducation.
Elle est super, Louise.
Il existe un lycée en visio intégral qui a été créé cette année.
En visio.
En visio complète, c'est-à-dire il n'existe pas de moment où les élèves se réunissent dans une même salle de classe physique. Ils ont une salle de classe collective. Voilà. Ah. Ça existe, on ne sait pas encore ce que ça vaut puisque ça a été ouvert en septembre.
Ça veut dire quoi? Je comprends pas, on reste chez soi et on se connecte?
Absolument, il y a des élèves du monde entier du coup qui se connectent à ça. C'est évidemment un lycée hors contrat. Et puis on attend de voir ce que ça va donner.
Musk a créé son école, j'ai cru savoir justement, comme le raconte Clara. C'est quoi le concept de son école à Musk?
Alors c'est une école qui privilégie l'enseignement des maths, des sciences, de l'ingénierie et de l'éthique, et qui enlève absolument complètement le sport, les arts, la musique et les langues, puisqu'ils considèrent que on n'aura plus besoin de traduire quoi que ce soit puisqu'on aura les IA. Alors évidemment c'est un peu dangereux, mais ça n'existe pas encore en France.
Pas encore en France. Pour l'instant, on est préservé. Justement, que dit le ministère, votre futur ministère, Louise, sur l'usage de ces technologies?
Au rythme auquel ça va, on ne sait jamais.
C'est vrai. Mais tenez-vous prête, hein, vraiment. Que dit le ministère sur justement l'usage sur les technologies? Moi, j'ai entendu récemment, par exemple, que l'accès aux écrans, l'âge était différé, c'est-à-dire qu'on disait pas d'écran avant. Donc je crois de 0 à 3 pas d'écran du tout, et de 3 à 6 pareil, avec parcimonie. Alors j'ai l'impression qu'on était un peu plus détendu sur ces histoires-là.
C'est ça, parcimonie à plusieurs, on peut l'entendre de différentes manières. Les portables sont interdits à l'école et au collège, ça c'est très clair par les textes. Bon,
ça veut dire que moi je vois plein de collégiens, j'ai pas d'enfants de cet âge-là, mais avec un téléphone sur le chemin de l'école, ils en font quoi en classe?
Alors ils sont censés l'éteindre et le ranger de manière définitive dans leur sac.
On s'en sert pas, mais on peut l'avoir.
Ils ont de toute façon se connecter très souvent à un ENI, donc c'est l'endroit où ils vont avoir leurs devoirs, leurs notes, leurs avis d'absence, ce qui s'appelle pronote dans le public et école directe dans le privé. Et en fait, l'accès à ces ENI, il faut l'avoir chez soi. Ça veut dire que ses parents doivent, si nous on n'en a pas, on doit avoir des parents qui peuvent se connecter, eux, à Internet. Donc c'est déjà un peu une malhonnêteté du système. On n'a pas le droit aux écrans, mais quand même, chez soi, il le faut. Voilà. Et donc, pour évidemment, ça fait pour les élèves défavorisés qui n'ont pas d'ordinateur à la maison, et ça existe encore, il ne faut pas les oublier, c'est un vrai problème, quoi.
Est-ce qu'il y a des pédagogies alternatives intéressantes?
Il y a de tout dans les pédagogies alternatives.
J'attends votre expertise, Madame la Ministre.
Mais j'y viens. Il y a des pédagogies alternatives. Il y a Montessori, il y a Freinet, etc. Tout cela n'a pas de gage de qualité. Il n'y a pas de tampon. Je suis Montessori. Tout le monde peut se réclamer de Montessori. Donc il y a des fois où c'est bien fait et des fois où c'est mal fait. Oui. Montessori, c'est la manipulation. Freinet, c'est l'expérimentation. De Croly, c'est la globalisation des apprentissage. Mais en fait, ça, ce sont déjà des choses que les enseignants mettent en place eux-mêmes dans les classes, sans s'étiqueter Montessori ou De Croly.
Oui, d'accord, parce que c'est des écoles ensuite qui ne sont pas sous contrat, ou qui le sont, mais qui sont accessibles surtout pour les classes favorisées.
C'est ça, parce qu'en fait, les écoles hors contrat, c'est des frais d'inscription qui sont énormes, et donc du coup, ça n'est accessible qu'aux familles extrêmement favorisées. Toutefois, il y a quand même des initiatives dans le public, notamment en éducation prioritaire, qui essayent des pédagogies alternatives, qui font sortir plus les enfants dans la nature. Ça existe quand même.
Le contact avec la nature, le retour vraiment au vrai, quoi, tout simplement, à l'observation.
Aller perdre les gosses dans la forêt, c'est une solution.
Et d'autres l'avaient inventé avant.
Ben c'est vrai.
Et justement,
génial.
Et alors la place de l'enseignant dans tout ça, sa place dans ce système, dans ce monde en évolution constante?
Alors
ça,
son métier, lui, il se transforme complètement. L'enseignant, il doit être plus guide, plus facilitateur qu'il ne l'était avant. Il doit faire un cours qui est moins magistral. Il doit s'adapter à tous les élèves qui, des niveaux hétérogènes, la différenciation, ceux qui ont des besoins spécifiques. L'enseignant, il doit être le couteau suisse, quoi. Il doit s'occuper de tout le monde.
Louise, est-ce que vous avez justement sur ces nouvelles évolutions, quel regard vous portez, vous, justement, sur l'utilisation du numérique, sur, est-ce qu'on se dit, de toute façon, on est dans un monde envahi par le numérique, on peut pas y couper, ou est-ce que c'est crédible de se dire, on peut vivre complètement sans, et élever nos enfants sans?
Alors, je pense qu'à la maison, on peut ne pas avoir trop d'écran. C'est jouable.
Réglementer
ça, pas dès le début. Mais ça, je pense qu'on aimerait tous l'éviter. Après, je pense que dans les études, ils ont intérêt à le savoir, puisque de toute façon, ouais. Dans le supérieur, on va leur demander. Vous savez, au bac, aujourd'hui, il faut présenter, au même titre qu'une note en maths ou en français, il faut aussi présenter une note de PIX. PIX, c'est un parcours numérique, et il faut savoir manier des outils numériques. On a une note qui est nécessaire pour passer dans le supérieur. On va devoir se servir des ordinateurs, donc il faut savoir les manier. Mais il faut savoir les manier avec évidemment parcimonie qui revient par ici.
Bravo Louise, c'est le mot de la fin et je pense qu'on va tous voter pour vous, mais pas vraiment présidente, quoi, tout simplement. Louise Cuneo, journaliste au Point. C'était un bon déplacement.
En tout cas, une augmentation, vous pouvez la négocier au Point.
C'est enregistré, rassurez-moi.
C'est bien, ne vous inquiétez pas, on pourra repasser la bande. Ouais. Tanguy Pastureau est avec nous. Bonjour Tanguy, on parle de quoi tout à l'heure?
Je parle de Nicolas Sarkozy qui nous écoute sans doute, puisque désormais il a pas mal de temps libre.
Restez avec nous sur Inter. Original sur France Inter avec Amandine Lourdel, Lisa Delmoitié, Bruno Pecky, Tanguy Pastureau, Oldelaf, Daniel Morin.
Coucou Amandine.
Et notre invitée Clara Dupont-Mono.
Oui. Mila Kadour et Nagui, la bande originale.
Et mettez tes baskets.
Je peux pas t'expliquer.
Ou pas.
Prends le micro, je t'en supplie. Vas-y, pour un hommage. Non, je peux. La confrontation de votre nouveau roman, Clara, chez Albin Michel, avec donc ce face-à-face entre un négociateur du GIGN, Émile, qui fait face à un forcené assez inattendu. Alors, il détient une classe de maternelle, il l'a pris en otage, et surtout, il prétend s'appeler Elon Musk. Et toutes les informations qu'il va délivrer sont conformes à l'histoire d'Elon Musk, à savoir sa richesse, les entreprises qu'il a montées, les femmes qu'il a pu avoir, les enfants qu'il a aussi, et puis sa vision sur l'univers et sur l'avancée du monde, en fait.
Oui, exactement. Et avec cette idée aussi qu'il part du principe que la société numérique est déjà devenue folle, dans laquelle nous barbotons tous les jours, et que c'est un peu le principe de l'eau tiède, de plus en plus tiède, avec la grenouille dedans, et à la fin elle terminait bouillantée. et il y a aussi l'idée que peut-être qu'à l'avenir, avoir une vie privée sera un délit, et que le secret, parce que rare, donc cher, sera le prochain or invisible du 22e siècle. Et voilà, et ça calme tout le monde.
Et bien sûr. Non, mais c'est vrai, il y a quelques réflexions.
Je crois qu'elle est fort bon,
moi. Il y a des réflexions comme ça qui traversent le livre sur non seulement aussi la notion de temps libre, comment la technologie a créé un certain nombre de besoins artificiels qui nous poussent sans cesse à être sur nos téléphones, sur nos tablettes connectées sans cesse, à ne plus savoir quoi faire du temps libre.
C'est ça, et c'est une espèce de prise de distance aussi vis-à-vis de nos sociétés, sur comment est-ce que la femme est montrée quand même sur les réseaux, quand on s'est bagarré des années durant, pour que ça aille un peu mieux. Aussi, la façon dont la violence est exposée. Donc, à quel moment, en fait, on décide que c'est OK?
Oui.
En fait, nous, usagers. Et puis aussi...
À quel moment on accepte qu'on travestisse aussi l'idée de liberté d'expression?
Exactement.
Parce que dire les choses sous couvert d'y être autorisé parce qu'on a le droit de tout dire, oui, mais dans la limite de...
C'est ça. Est-ce que c'est encore de la liberté d'expression? Il y avait aussi quand même l'idée derrière... quand nos vies privées et données personnelles sont quand même monnayées par des gens au-dessus qui s'en servent pour les refourguer à des boîtes de pub, est-ce que là, on est encore considérés comme des êtres estimables? En fait, c'est l'idée aussi, qui prend soin de nous? Qui, à un moment, dans cette société numérique, nous offre de quoi enrichir nos âmes, nos sensibilités? Qui nous tire vers le haut? Il y a aussi, à un moment, l'usager qui peut se poser la question de se dire, si on me refourgue autant autant de nullité, c'est peut-être qu'on part du principe que j'en suis une.
Ouais, ouais.
Et ça, je suis aussi libre de dire que ça me plaît pas, que je ne suis pas une nullité, et que finalement, mes centres d'intérêt et ma vie mériteraient un peu plus de qualité.
C'est la confrontation de Clara
Dupont-Moretti.
C'est
le mouvement
gilet jaune. Ouais, c'est ça. Il y a une révolte là. Ça partira d'ici, de ce studio avec Clara Dupont-Moretti chez Albin Michel. Et tout de suite, c'est Tanguy Pastureau dans la bande originale.
Oh, bravo.
Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la prison à part Daniel. Non, parce que j'ai une vie de plan-plan, mais juste à cause du manque d'opportunités. Ah. Si j'avais eu le numéro de téléphone du colonel Kadhafi à l'époque où le plus gros distributeur de billets de Paris, c'était lui, mais j'y serais allé à fond. Parce que dans les médias, on est toujours là à jouer les gens parfaits. Oui, l'honnêteté, gna gna gna. Moi, ce qui fait que je suis honnête, c'est que je n'ai pas rencontré de gangster. Je me serais bien vu en parrain de la pègre, Tanguy Montana. T'sais. Sans drogue, parce que je n'aurais pas voulu que des personnes meurent par ma faute. Mais je ne sais pas, j'aurais vendu des steaks de soja ou des Black Gold de l'AF, des trucs qui se vendent à France Inter, quoi. Et ce matin, j'ai suivi le départ en prison de Nicolas Sarkozy. Pour les jeunes, Nicolas Sarkozy, c'est le père de l'influenceuse Julia Sarkozy. Ouais. Il y a sans doute des jeunes qui nous écoutent, ce sont les vacances chez leurs arrière-grands-parents. Il y a peut-être la radio allumée. Salut les kids, ouais les frères. Restez là dans 4 minutes, on passe le tube de Jean-Louis Aubert. Voilà, c'est fini. Mais avant, laisse-moi t'expliquer la life des années 2010. Nicolas Sarkozy, Nico Gros, était président de la République. Ouais. Il vivait à l'Élysée avec Carla Bruni, une daronne qui a pas trop changé. Elle doit avoir une bonne nature parce que nous, dans le même temps, on s'est tassé, on s'est ridé. On ressemble plus à des balantistes très broyés par Patrick Bruel quand il a vu passer une jeune fille qu'à des êtres humains. Les ministres de cette époque-là ont tous disparu, sauf Rachida Dati. Vous voyez Rachida Dati, les kids? C'est la dame qui fait peur. Bouh, elle a l'air plus sévère que Smiley Vénère sur le Samsung de ton oncle. Eh ben, il y a 15 ans, elle était ministre de la Justice et je pense que ça lui a plu parce qu'elle a poussé le professionnalisme jusqu'à être jugée elle-même bientôt. Si plus de gens en France étaient aussi consciencieux, on ne serait pas dans ce marasme. À l'écologie, les kids, il y avait Jean-Louis Borloo qui a poussé le zèle jusqu'à se biodégrader lui-même. Il y avait aussi Michel Barnier, vraiment ministre de la pêche. C'est-à-dire qu'ils avaient pris le mec qui ressemblait le plus à un pêcheur en train de dormir dans une chaise pliante Décathlon, histoire de faire une thématique. Et le Premier ministre, c'était François Fillon. Vous vous souvenez, les vieux, hein, une sorte de mannequin senior qui se faisait offrir des costumes. Les reines du shopping, l'idée est venue à Christina Cordula en regardant Fillon. Bien, ça y est, les jeunes ont cessé de nous écouter. Hein, à cause de TikTok, ils ont une capacité de concentration de 17 secondes, comme les coquins en chaleur. Retour aux adultes. Bonjour madame, bonjour monsieur. Vous avez vu, c'est une journée historique quand même. Première fois qu'un président de la République est incarcéré. On a parlé que de ça depuis hier, à part sur la chaîne manga où ils sont partis sur Dragon Ball Z, avec tous les détails techniques. On sait par exemple que Sarkozy a été fouillé intégralement avant l'épreuve de la prison. C'est normal d'avoir un moment sympa. Il est seul dans sa cellule, cellule de 9 mètres carrés, c'est peu. Hein, ça doit être la taille de sa salle d'eau d'habitude, mais enfin il est pas bien grand, ça va passer. Un Teddy Riner s'y part en tôle avec un cousin qui fait sa taille, ils sont obligés de soulouer un conteneur sur le port du Havre. Dans la cellule, mobilier pratique mais simple. Hein, la prison, c'est pas les émissions de déco sur T18. Un lit, une douche, des WC, une plaque chauffante, un bureau, télé et frigo en option. Moi qui me plains en tournée d'être logé dans des Ibis budget, je me dis finalement, ça va. Hein, même le bureau de la bande originale, ça va. Alors qu'on est 15 pour 10 mètres carrés. Parfois, pour rentrer, faut pousser ceux qui sont dedans par la fenêtre. Et on est au 6e. Ça vient de là, le fait que certains chroniqueurs disparaissent d'un coup. Ils sont pas partis sur une suite de carrières. Quelle carrière? Ils sont morts. Sarkozy. Sarkozy, autre info, peut téléphoner à 10 numéros seulement.
Ah,
et alors, il est sur écoute. Okay. Hein, il a l'habitude, parce que Patrick Buisson, vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, avait pas arrêté de l'enregistrer. Il y a plus d'inédits de Sarkozy que de Bob Marley dans les tiroirs. Sarkozy, qui dit la presse, alors a emporté avec lui une biographie de Jésus. Le sosie capillaire de Bob Sinclair, qu'on obligeait à faire des étirements des bras, et les deux tomes de Monte Cristo, allusion à l'emprisonnement arbitraire d'Edmond Dantès. Et qui se balade toujours avec des livres en rapport avec les situations qu'il vit. Quand il discute avec un LR de l'état du parti, sous le bras, il a les illusions perdues. Si un jour prochain, il se dit « j'ai 70 balais, il est temps que je m'éclate quand même sous la douche », il prend l'amant. Ainsi reçoit Vauquier un album de coloriage, parce que c'est pas le plus fin de la bande, quoi. Enfin, Sarkozy a droit à des visites. Un Gérald Darmanin a dit qu'il allait passer le voir et peut-être qu'il aura aussi des visites sympas. Et hier, on apprenait qu'Emmanuel Macron avait reçu Sarkozy à l'Élysée discrètement, dit la presse. C'était tellement discret que tout le monde était au courant. Ça a fait réagir. Macron a répondu qu'il l'avait fait sur le plan humain. Et jusqu'à présent, personne n'avait réussi à entrevoir l'humanité de Macron. Elle était mieux cachée que sa popularité. Et il a fallu ça. Voyez encore un qui part en prison et Macron s'engage au service des autres. Quoi. On va le retrouver en train de creuser des puits en Afrique, en sandales de gauchiste. À un moment, hier, j'ai allumé BFM TV. J'ai vu Patrick Balkany dénoncer l'incarcération de Sarkozy, ce qui l'enfonçait encore plus, en fait. C'est comme si Jean Humbert était défendu par Bertrand Cantat. Hein. Je n'ai pas peur de la prison et je garderai la tête haute, a dit Nicolas Sarkozy, qui a l'air aussi détendu qu'après un massage thaï à quatre mains. On a l'impression qu'il se va en congé à la boule. Ce mec a la force mentale d'un moine Shaolin. C'est ça, ça va faire comme dans Karate Kid. Il va former au combat un jeune qu'il aura pris sous son aile. Et il a prévu d'écrire un livre en prison et il va rester administrateur de Lagardère et d'Accor. Accor, groupe qui, dans son giron, a les hôtels Ibis Budget. Vous voyez, tout fait sens. Sarkozy, moi, nous. Pourquoi ? Parce que tout citoyen peut se retrouver en prison. Après, je ne sais pas si Macron aura le temps de recevoir tout le monde sur le plan humain. Ouais. Parce que même pour quelqu'un d'aussi altruiste, je veux dire, ça risque d'être juste au niveau du planning. Moi, je suis bien content de vous avoir croisé, vous, plutôt que des gangsters. Parce que moi, franchement, 9 mètres carrés, je préfère l'Ibis Budget le matin au moins. Tu sors.
Ouais, bravo.
Tanguy sur scène le 13 novembre à Bron, c'est près de Lyon, au théâtre Albert Camus.
Oui, il y avait une devinette, c'était non. Ça. Oui, d'accord. Okay.
Albert.
Et nous, c'est la confrontation chez Albin.
Michel.
Bravo, Clara Dupont-Mono, notre invitée. On est pas mal. Ce face-à-face entre ce négociateur du GIGN et ce forcené Elon Musk. Qui a été votre premier lecteur, Clara Dupont-Mono?
Mes enfants et mon mari. Mes enfants qui sont grands ados. Et donc c'était assez précieux. Et...
Mais ça doit être délicat de demander l'avis à ses proches parce que ça met les proches dans une situation inconfortable.
Non, pas eux. Je ne peux pas avoir la grosse tête avec une famille comme ça. Ça, c'est très difficile. C'est pas possible. Vous prenez les quatre vérités dans vos dents et c'est très bien comme ça. Et ensuite, c'est le circuit classique de l'édition. C'est l'éditeur, c'est l'agent quand il y en a un.
L'agent aussi intervient dans la lecture.
Elle peut, par exemple, c'est mon agente qui a eu l'idée de, alors on peut pas tout révéler, mais non. D'un personnage sexué dans la deuxième partie du livre. Mm-hmm. Moi j'ai tendance à être à faire partie des écrivains où je suis complètement à part, en parallèle, à faire mon truc pendant des mois et des mois et à le montrer à personne.
D'accord.
Mais en revanche, quand c'est un état à peu près présentable du texte. Là, en revanche, je suis très preneuse des retours, mais des gens que j'estime. Parce
D'accord.
qu'ils peuvent me dire, là, ça va pas du tout, là, je me suis ennuyée, là, c'est nul. Et en fait, ça peut que aider le texte à progresser. Mais je fais partie de ceux qui arrivent avec, genre, les 200 pages, blam, comme ça, et pas en cours de route.
Oui, pourquoi ?
Le service juridique a pas tiqué sur le...
Bah, si, on l'a fait lire à un avocat, oui. Qui a dit éviter de mettre Elon Musk pendant la promo, ce qui est complètement raté dans la bande originale.
C'est
un petit peu planté.
Ça fallait m'avertir, hein, mais... Ouais.
Non, mais c'est comme ça.
On se parle
après,
pas assez.
Non, mais c'est...
Heureusement qu'on est pas en direct. Hein. T'imagines l'angoisse.
Non, mais ça explique la postface, quand même.
Oui, mais de toute façon, la postface, moi, c'est quelque chose en tant que lectrice que j'adore lire.
Oui.
Donc après, je m'étais toujours dit, j'en ferai quand je peux, parce que moi, quand je lis un bouquin, j'adore lire un petit mot après de l'auteur à la fin, qui dit, quand il y a besoin, mais j'ai voulu tenter ça, Lazo, Zola, voilà, tout ça. Ça me fait marrer.
Flaubert.
Voilà, exactement. Mmh. Ça me fait rigoler.
Et le service juridique vous a dit
Il m'a dit, bon, ça va être compliqué quand même de l'appeler Robert Martin, parce que c'est Elon Musk, quoi. Bah,
mais à quel moment vous contactez le service juridique? Au début ou une fois que vous avez
Quand j'ai terminé, j'arrive.
C'est risqué.
Oui, ouais. J'arrive chez Albin et je dis, voilà, mon prochain bouquin, il y a juste un petit souci, c'est que c'est Elon Musk. Donc il se décompose un peu quand même. Ouais, c'est pas le plus
c'est un
simple.
Souci de taille, oui.
Et l'avocat nous a dit éviter de le mettre, par exemple, dans le titre, en couverture sur le livre. Et puis après, comme ça, c'est la vie, c'est un personnage public.
Oui.
Et par ailleurs, on va pas tout révéler.
Non.
Mais je m'en tire avec une petite pirouette.
Absolument.
Voilà.
Une petite pirouette, en effet, qui vous sauverait éventuellement de problèmes juridiques,
voilà.
Clara Dupont-Mono. Et qu'est-ce que, donc, vous vous lancez dans l'écriture d'un livre, au-delà du sujet qui vous emporte, des recherches, des gens que vous pouvez contacter, que ce soit les négociateurs du GIGN ou autres, quelle est l'attention que vous apportez à votre style? Est-ce que le style est modifié en fonction, justement, du texte et du roman, ici, sur un territoire un peu différent?
Bah, forcément un petit peu. Mais après, moi, sortant du précédent, donc s'adapter,
Béto Auréolé,
qui a eu beaucoup de succès et qui était un sujet assez, assez, bon, d'abord perso, et puis ensuite qui a parlé à plein de gens, ce qui m'a fait vraiment plaisir. Mais en gros, c'est la naissance d'un enfant handicapé raconté par la fratrie, uniquement les frères et les sœurs qui prennent la parole, et ça se passe dans les Cévennes, et c'est les pierres de la maison qui racontent l'histoire, donc c'est quand même assez spécifique. Ce livre avait pris une telle place dans ma vie qu'il m'est arrivé quelque chose qui m'était pas arrivé avec les autres livres, c'est qu'en fait, j'ai eu affaire à un texte jaloux qui a pris toute sa place dans ma vie, qui m'a empêché un peu quand même d'écrire, qui fait que je le réécrivais dans ma tête tout le temps et ça me réveillait la nuit. Quand j'allais dans les Cévennes voir mes parents, je pouvais plus regarder un paysage sans que instantanément m'arrive une scène de 5 pages que je réécrivais. Il fallait que ça cesse en fait. À un moment, j'ai fini par dire à s'adapter. Il faut que tu partes en fait. Il faut que tu me laisses écrire un autre livre.
Vous auriez dû demander à Amélie Nothomb qui aspire. Comme ça,
oui, mais je comprends très bien ça. Il y a une copine écrivain qui m'a dit, fais une lettre de rupture à s'adapter. Moi, j'ai dit, c'est pas possible, je peux pas rompre avec lui. C'est pas possible. Mais bon, donc on a quand même des côtés un peu bizarres. Et du coup, là, il y avait la promesse quand même de me marrer quand même. Oui. Et puis de frotter cette inspiration à quelque chose d'hyper actuel. Donc je me suis dit, bon, Clara, fais-toi plaisir, parce qu'il faut pas refaire la même chose un peu que s'adapter. Je vais pas raconter l'histoire d'une famille dans les Pyrénées racontée par la gouttière. Enfin, je veux dire, vous voyez, j'aurais pu, mais dans ces cas-là, on peut refaire le même livre, ça aurait été une pâle copie de s'adapter. J'avais pas envie de ça, il avait sa place. Mais dans ces cas-là...
Donc il y a quand même une certaine douleur à quitter un livre et à en rencontrer un autre.
Ouais, bien sûr, ça je connais pas un seul écrivain qui vous dira le contraire. Ça, il y a une forme de deuil, il y a un compagnonnage. Après, ce qu'on mesure pas sur le coup, c'est qu'en fait, il vous accompagne toute la vie, de toute façon. Mais savoir pas le cœur, un livre, c'est difficile à faire, donc ça vous prend la tête au sens littéral du terme. Donc à un moment, tout, puis quand il y a une belle aventure comme s'adapter, ça, les gens voient l'écrivain souvent comme un mélange de curé et de psy, donc ils déposent leur bagage émotionnel sur votre table. C'est un référent avec vous, donc vous absorbez tout ça, c'est magique et exténuant.
C'est la confrontation de Clara Dupont-Monod chez Albin Michel, et Bruno Pecky est avec nous aussi.
Oui,
salut Bruno. Un hommage.
Et oui, aujourd'hui je remplace Emma Beaujean qui rend tous les jours un hommage.
Oui.
Alors je sais, c'est pas la première fois que je remplace quelqu'un ici. Hein. J'ai déjà remplacé Lisa pour sa chronique quotidienne, Daniel pour les excuses en fin d'émission. Et là je remplace Emma Beaujean.
Oui.
C'est pas le grand remplacement, c'est le petit remplacement. Voilà. Un étranger qui vient voler tous vos jobs, mais seulement quand les gens sont pas dispo.
Oui.
Donc aujourd'hui je vais rendre hommage au plan B.
Ah.
Voilà. Ah bah parce que je suis clairement le plan B de France Inter.
Ça.
Et apparemment aussi le plan C, D, E, F, G, H, I, J. Oui, je vais faire tout l'alphabet. Hein. J'ai eu 12 heures pour préparer cette chronique, je gagne du temps comme je peux. Maintenant que j'y pense, si on m'a proposé il y a 12 heures, c'est que d'autres ont refusé avant, donc j'étais pas du tout plan B, hein. Je suis beaucoup plus long dans l'alphabet. Genre plan L, M, N, O, P. Non, le plan Q même pas, hein. Je fais ça sans contrepartie, c'est un scandale.
Ouais, oui.
En revanche, je suis aussi le plan R, S, T, U, V, W, X et Y. Voilà, pas le plan Z quand même, ça c'est Marie Saint-Filtre. Allez, non mais j'ai compris que pour la bande originale, moi je suis l'équivalent du Cubi de Rouge ou du Café Soluble. Je suis pas le choix numéro 1, mais s'il y a rien d'autre, bon, on fait avec. Hein.
Non.
À tel point que ça me fait douter niveau perso. J'ose mais pas demander à ma meuf si j'étais son choix numéro 1, j'ai peur de sa réponse, quoi. Non, mais je dois vous expliquer comment j'ai découvert que j'allais remplacer Emma aujourd'hui. En gros, hier, à la fin de l'émission, il y a JB, le rédac-chef, qui est venu vers moi avec un grand sourire. Et voilà, c'est à cet instant que j'ai su qu'il allait me demander de remplacer quelqu'un. Si JB sourit, c'est jamais bon signe.
Hein.
Le mec se nourrit du malheur des autres, il est comme les détraqueurs dans Harry Potter. Quoi. Il me calcule tellement pas qu'à peine nos regards se sont croisés, je lui ai dit c'est pour remplacer qui. Il m'a répondu, Emma, est-ce que t'es dispo aujourd'hui pour écrire la chronique de demain? Je lui ai dit la vérité, je lui ai dit que j'avais prévu de passer le reste de la journée à préparer un bon repas pour mon amoureuse afin de fêter son anniversaire le soir même autour d'un dîner romantique. Soit quand il m'a répondu, ok parfait, ça veut dire que t'as rien et que tu peux remplacer demain.
Non.
Alors certes, il a probablement sauvé ma copine d'une intoxication alimentaire, mais il a réveillé la fureur helvétique qui sommeille en moi depuis bien trop longtemps. Et je lui ai dit sans trembler, mais t'es sérieux ou quoi? Je viens de te dire qu'aujourd'hui est un jour important pour moi et que je mets en priorité ma vie privée afin d'avoir un certain équilibre et garder une bonne santé mentale. Donc non, je ne suis pas dispo pour écrire une chronique pour demain. Bon bah évidemment que non, je n'ai pas dit ça parce que je suis ici aujourd'hui. Donc cette phrase, je l'ai sûrement écrite hier soir en étant énervé, en tapant très fort sur mes touches d'ordi. Tellement fort que ma copine m'a dit, ok, donc pour un anniversaire, il n'y a que ton clavier qui soit défoncé.
Oh, mais non.
Autant vous dire qu'après ça, j'ai très vite mis un point final. Je suis allé faire autre chose, je me suis même pas relu. Hein, donc... Bref, je vous dis tout ça. Mais au fond, non, mais je suis quand même content d'être le petit remplaçant. Et c'est avec honneur et panache que je tiens ce matin à défendre tous les plans B. Mais aussi les C, les D, les E. Merde, je vous l'ai déjà fait. Pardon. Donc vive les plans B, et c'est pas Clara Dupont-Mono qui dira le contraire, puisqu'à la base, Leïla avait demandé à recevoir Amélie Nothomb. Alors, vous savez quoi, le remplaçant, c'est maintenant. Le remplacement, c'est maintenant. Et probablement dans quelques jours de nouveau, car je sais pas dire non.
Wow, bravo, Bruno.
Bravo.
On est content de t'avoir avec
même
nous,
aussi,
Bruno.
Même aussi, en vrai, je suis content de venir.
Oui, on est content aussi.
On est content quand tu repars en Suisse, par exemple, le 5 novembre, à Estavayer.
Ah, c'est pour la promo, ça va, la transition.
Voilà, évidemment.
Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois? Clara, est-ce que vous êtes déjà attelée à l'écriture d'un prochain texte?
Non, pas du tout, pas du tout. Là, on savoure d'abord le fait d'avoir terminé quand même.
Ouais.
Et puis après.
Il est terminé depuis un petit moment quand même.
Oui, le procès mais... avec Elon.
Mais qui trouvait un bon avocat et m'équipait un peu. Casser mon PEL. Non, parce que, et ensuite, il y a tout dans la vie d'un écrivain, il y a tout là, ce qu'on appelle la promo. Et donc là, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément, mais ce sont les salons littéraires. En plus, il y a la rentrée littéraire qui est une spécialité franco-française où il y a beaucoup d'agitation merveilleuse autour du livre. Donc il y a des salons, il y a des libraires qui vous invitent.
Des rencontres.
Il y a des rencontres avec les lecteurs. Et ça, c'est assez précieux parce que c'est très solitaire, l'écriture d'un livre. Donc c'est là où vous voyez les gens comme qui vous achètent. Souvent, ils vous renseignent sur ce que vous avez écrit. En fait, c'est eux qui ont le petit regard laser que vous n'aviez pas du tout envisagé.
Vous en apprenez en discutant avec vos lecteurs.
Ouais, souvent, on écrit, on comprend après ce qu'on écrit quand même. Et c'est vrai, mais c'est vrai.
Et vous allez à la rencontre d'élèves aussi, puisque vous avez quand même le Goncourt des lycéens, avec S'adapter, le prix Femina aussi, mais c'est un public qui doit être agréable de rencontrer, de continuer à rencontrer après un prix Goncourt.
Oui, et puis particulièrement touchant. Parce que là, pour le coup, il transpose des choses qu'on n'avait pas forcément en tête. C'est quand même assez touchant de savoir qu'une jeunesse peut vibrer un peu avec vos mots. Et je serais très curieuse de voir comment celui-là, ils vont le lire, s'ils le lisent. Parce que vu ce qui est dit des réseaux sociaux...
De l'anonymat que vous interrogez aussi, de l'intimité, de comment on se protège progressivement et comment ce qu'on pensait être une victoire aujourd'hui, hier, n'est plus une victoire aujourd'hui.
Parce que le personnage d'Elon Musk dit quand même des choses comme mes ennemis, il dit à Emile, mes ennemis, ce sont les gens qui n'ont pas de réseaux sociaux, qui n'ont ni Facebook, ni Instagram, ni rien, qui n'ont pas besoin de quêter l'approbation d'autrui pour exister. Mes ennemis, ce sont les gens heureux. Donc ce genre de truc, je vais voir comment les ados le lisent et le perçoivent, s'ils se sentent agressés ou si au contraire ça chemine un peu.
Ça vous a pas donné envie d'abandonner votre téléphone portable ?
Non, mais moi, vous savez, je fais partie des rares où je n'ai aucun réseaux sociaux. Je ne suis pas sur Instagram, il y a des gens qui sont passés pour moi, d'ailleurs il faut que je vérifie quand même, mais je n'ai pas Facebook, j'ai rien.
Et ça, on ne vous le reproche pas professionnellement pour communiquer
ça pose des soucis, alors du coup j'ai des pisteurs, j'ai des gens qui regardent pour moi, mais je n'ai pas tout ça, non.
Donc vous êtes libéré, vous êtes libre, donc vous êtes le premier danger d'Elon Musk.
Voilà, c'est ça, je suis la pire ennemie d'Elon Musk.
C'est pour ça, Clara Dupont-Mono.
D'ailleurs, s'il m'intente un procès, je ne le saurais même pas.
Mais du
coup... Ou s'il veut m'insulter, je ne le saurais même
vous
pas.
Vous serez la dernière informée. Voilà. Il est temps de présenter des excuses, Daniel.
Déjà, désolé, vous pensez bien pour Elon Musk qui nous écoute souvent et qui depuis ce matin se dit, mais elle se fout de ma gueule du Dupont-Mono. Moi, un mec imprévisible et dangereux, frustré politiquement, mais pas du tout, je veux juste coloniser l'espace et rendre l'espèce humaine bestiale. Je suis normal, si vous ne croyez pas, je fais sauter la maison de la radio avec dedans Dupont-Mono. Calme-toi, Elon. Alors, Clara Dupont-Mono, 45 rue du Chat qui pêche, 17B12, 4e étage, porte B, elle sera chez elle à partir de 18h. Désolé pour tous les geeks qui nous écoutent et qui, après la chronique de Lisa Delmoitier, voudraient sortir tout nu dans la rue au cas où quelqu'un suive les conseils de Lisa, à savoir... procurer un plaisir fugace sous une porte cochère en mettant des genouillères. Rhabillez-vous les gars, c'est gênant. Attention, désolé maintenant pour tous nos auditeurs, petits lecteurs qui nous écoutent et qui ne comptaient pas du tout lire le livre de notre invité. Soyez sympas. Clara Dupont-Mono lui a dédié la confrontation.
Didi.
Ils sont fatigués. C'est juste, C'est juste un petit recueil de ses petits kiffs. Eh ouais, elle aime le prénom Shirley, hop, dans le bouquin. Et l'autre mousse l'inquiète, bam, voilà le méchant. Elle est fan d'Emile Louis, boum, voilà le prénom du héros. Ce livre, c'est une cagnotte litchi pour la santé mentale d'une jeune femme fragile harcelée par un banquier qui, depuis 3 ans, lui refuse son PEL.
Merci Daniel, merci Clara.
Merci à vous, vraiment.
Et merci à toute la bande autour de la table. Demain, on retrouve Jules ou Jules, à savoir, comme ça vous nous écouterez demain. Est-ce que c'est Jules qui vient? Est-ce que c'est Jules qui vient? Vous le découvrirez demain sur France Inter, la bande originale. Daniel est hyper inquiet tout d'un coup.